Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM et de prendre part à ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question de la gouvernance des commissions scolaires au Québec. Pourquoi? Parce qu'on en parle dans les journaux. Effectivement, cette semaine, Le Devoir a publié un article intitulé « Projet de loi 86, les parents aux consultations ». Le ministre Blais se forme une garde rapprochée pour tenter de convaincre le plus grand nombre de groupes possibles d'appuyer sa réforme de la gouvernance des commissions scolaires. Ma crainte, mesdames et messieurs, dans tout ça, c'est qu'on ne réussisse pas à avancer suffisamment loin pour qu'en bout de ligne, ce soit l'étudiant qui en sorte gagnant. Malheureusement, l'étudiant pourra en sortir perdant de cet exercice. L'objectif, je crois, devrait être de rendre la structure la plus souple possible pour donner des meilleurs services, des services de qualité aux élèves. Actuellement, au Québec, on retrouve 72 commissions scolaires. Des 72 commissions scolaires, 60 sont de statut linguistique francophone, 9 de statut linguistique anglophone et 3 de statut particulier. Pour améliorer le tout, le ministre Blais a déposé un projet de loi en décembre 2015, le projet de loi numéro 86. Ce projet de loi porte le nom suivant. Attachez bien votre tuque avec la broche, mesdames et messieurs, voici son nom. Loi modifiant l'organisation et la gouvernance des commissions scolaires en vue de rapprocher l'école des lieux de décision et d'assurer la présence des parents au sein de l'instance décisionnelle de la commission scolaire. En fait, ce titre-là veut tout simplement dire qu'on veut rapprocher les parents du pouvoir décisionnel. Je veux donc, dans un premier temps, offrir mes suggestions par rapport à ce projet de loi-là ou par rapport à la réforme de la gouvernance des commissions scolaires et j'aimerais commenter deux articles de ce projet de loi. Tout d'abord, voici ce que j'ai à suggérer. Pour réduire les dépenses, le ministre Blais a besoin de couper dans les structures, dans les comités inefficaces et dans les dédoublements administratifs. Pour que notre système soit plus efficace, les commissions scolaires devraient s'inspirer de la Fédération des établissements d'enseignement privé, ce qu'on appelle la FEEP. La FEEP regroupe 190 écoles fonctionnant avec un maximum d'autonomie. De plus, la FEEP ne dispose d'aucun commissaire élu aux frais des contribuables. De leur côté, les commissions scolaires regroupent en moyenne 35 à 40 écoles. On pourrait dire en moyenne 38 écoles. Réalisez-vous la différence? La FEEP regroupe 190 écoles et les commissions scolaires en moyenne 38. La FEEP est en mesure de soutenir pratiquement 5 fois plus d'écoles dans leur mission éducative. On parle ici d'un modèle inspirant. Donc, si on avait 17 commissions scolaires francophones au Québec, donc une par région administrative, il y a 17 régions administratives, une commission scolaire par région administrative, on parlerait d'un regroupement de 160 écoles par commission scolaire, ce qui est déjà moins que la FEEP, qui en regroupe 190. Si on parle du réseau scolaire anglophone, qui compte environ 115 000 élèves répartis dans 350 écoles, ce qui fait à peu près en moyenne 329 élèves par école, eh bien, on pourrait avoir seulement 2 commissions scolaires. On passerait de 9 commissions scolaires à 2. Vous allez dire, oui, mais c'est quand même gros. Bien, pas tant que ça, parce que, écoutez, si on a 2 commissions scolaires, on parle de 175 écoles. On pourrait en mettre 175 à l'ouest, avec des bureaux administratifs à Montréal, et 175 écoles qui seraient réparties dans l'est du Québec, avec un bureau administratif dans la ville de Québec. Donc, on parle de 350 écoles, on les divise en deux. 175 qui sont regroupées par la commission scolaire, qui a un bureau à Montréal, donc qui représente l'Ouest, et à Québec, on représente l'Est avec 175. C'est déjà moins que la FEEP qui regroupe 190 écoles. Et en ce qui concerne les trois commissions scolaires à statut particulier, eh bien, je garderai le statu quo pour l'instant parce que ça regroupe, par exemple, les Inuits, ça regroupe les Amérindiens et les écoles éloignées de la Basse-Côte-Nord. Donc, pour l'instant, vu que déjà, on a beaucoup de travail à faire avec les commissions scolaires francophones et anglophones, je ne toucherai pas à celle-là. En termes de gouvernance, on devrait se fier au modèle de la FEEP qui réussit à bien accompagner les établissements d'enseignement privé actuels. Ayant été directeur d'une école privée, eh bien, cette école-là que je dirigeais était membre de la FEEP. Je peux dire qu'ils sont proactifs puis ils offrent des services de qualité. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont seulement 25 employés pour tout faire le travail. Et sur les 25, il y en a 3 à temps partiel. Et c'est pour ça que moi, je crois que dans cette réforme-là, c'est important et j'appuie le gouvernement qui veut aller dans ce sens de ne plus avoir de commissaires élus et d'avoir justement des comités qui vont avoir par contre l'appui des parents. Moi, je trouve ça important. Je trouve ça important parce que les parents envoient leur enfant dans une école. Ces parents-là peuvent élire des représentants de cette école au sein de cette commission scolaire-là. Ils peuvent se nommer des gens et donc on n'a pas besoin d'aller au suffrage universel, faire déplacer les gens pour aller voter comme on le fait pour les élections municipales, provinciales et fédérales. Ce qu'il faut en fait, c'est simplifier la machine pour être le plus efficace possible et qu'au bout de la ligne, comme je vous disais d'entrée de jeu, mesdames et messieurs, que ça soit l'élève qui soit gagnant. Et donc, outre la gestion et outre l'organisation des commissions scolaires, il y a 2 articles dans ce projet de loi-là qui ont attiré mon attention. L'article 4, qui modifie l'ancien article 36, et à l'intérieur de cet article 4-là, il y a une phrase qui a vraiment éveillé ma curiosité. Et cette phrase-là dit ceci. En outre, l'école est destinée à collaborer au développement social et culturel de la communauté. C'est intéressant. L'école est destinée, ça c'est selon la loi. Donc, le ministère de l'Éducation, le ministre de l'Éducation, le gouvernement positionne l'école, le destin de l'école. L'école est destinée à collaborer au développement social et culturel de la communauté. C'est quand même quelque chose. Donc, on veut que l'école ait un impact sur la culture. C'est un milieu, justement, de formation culturelle. Et donc, s'il y a un lieu que les parents ont intérêt à s'impliquer, c'est dans l'école. C'est à l'école que l'élève passe la majorité de son temps à être influencé par une culture, par une philosophie, puis par des idées. Si des parents s'impliquent dans une école, eh bien, ils peuvent contribuer à transformer tout un milieu. Et donc, c'est important que des parents puissent contribuer justement à façonner cette culture-là. Parents qui m'écoutez, vous avez un rôle crucial et ça a un impact non seulement chez votre enfant, mais sur toute une communauté. Je vois que le temps file, il y a un autre article que j'aimerais attirer votre attention puisqu'il a attiré le mien. L'article 5 qui remplace les articles 36.1 et 37.1. Voici ce qu'une partie de cet article 5 dit qui a attiré mon attention. Le projet éducatif de l'école doit respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du personnel de l'école. Je relis. Le projet éducatif de l'école doit respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du personnel de l'école. Ici, ça a l'air anodin, hein? Ça a l'air d'une phrase qui est bon, tout à fait normale. Hein? Mais cette phrase est un énoncé philosophique. Vous allez dire, oui, mais c'est important de respecter la liberté de conscience, de religion des élèves, des parents et des membres du personnel. Premièrement, c'est un gros mandat. C'est un gros mandat parce qu'à cause de toute la diversité culturelle, la diversité religieuse qu'on retrouve spécialement dans la région de Montréal, mais également parce que ça va, pas seulement parce qu'il y a une diversité, mais parce que l'école a adopté déjà une philosophie. Vous allez dire, hein, comment ça? Oui, oui. C'est un choix administratif, mais qui est basé en fonction d'une philosophie. Pour simplifier le plus possible, il y a essentiellement deux modèles qui sont en ligne avec nos chartes des droits. Le modèle communautarien, où chaque groupe peut être représenté dans le système, ou le modèle républicain, où chacun doit trouver son compte. Le modèle communautarien, ça veut dire que, à l'intérieur de notre société, par exemple, si les bouddhistes voulaient avoir une école, là où le nombre le justifie, si le projet est viable, pourraient dire, ben nous, on va avoir une école, on va avoir 350 élèves, je ne sais pas moi, sur l'île de Montréal. Et puis à ce moment-là, tous ceux qui veulent justement avoir une éducation qui est conforme aux normes du ministère de l'Éducation, mais être au parfum, puis être enseigné dans une culture bouddhiste, eh bien, pourraient le faire. À ce moment-là, ce serait une initiative de parents et l'école et le gouvernement auraient l'obligation de supporter financièrement cette école-là. Normalement, elle ne devrait pas avoir de déficit puisqu'il y a un nombre suffisant d'élèves pour la supporter. Dans le modèle républicain, c'est qu'on met tout le monde dans le même panier. On ne fait pas de distinction de personne, mais on s'assure que le projet éducatif nuit à personne. Et donc, soit qu'on respecte la liberté de conscience par établissement, ou soit qu'on respecte la liberté de conscience à l'intérieur d'un même établissement. Donc, communautarien, c'est chaque groupe peut être représenté dans une école. Républicain, c'est tous les groupes sont représentés dans une école. Le gouvernement a fait le choix philosophique du modèle républicain. Et c'est pour ça qu'il le met dans le projet de loi. Il ne dit pas « on a choisi le modèle républicain », mais il met l'énoncé philosophique qui s'attache au modèle républicain. Et c'est pour ça que moi, je trouvais important de vous le mentionner pour que vous puissiez le savoir. Mais est-ce que ça gère bien, ça? Eh bien, à l'heure actuelle, je crois que c'est difficile à gérer ça parce qu'on peut faire face à différents problèmes. Par exemple, un témoin de Jéhovah sera en droit de demander à ce qu'on ne décore pas un sapin de Noël, parce qu'un parent, parce qu'oubliez pas, c'est pas juste chez l'enfant, peut-être l'enfant va trouver ça beau, un sapin de Noël. Mais l'énoncé dit, le projet éducatif de l'école doit respecter la liberté de conscience, de religion des élèves, des parents et des membres du personnel. Et donc, si par exemple, il y a un membre du personnel qui est témoin de Jéhovah, est-ce qu'on peut l'empêcher d'être enseignant parce qu'il est témoin de Jéhovah? Non. Mais si lui, il dit, je ne veux pas qu'il y ait de sapin de Noël, ça nuit à ma conscience, on ne fête pas Noël, nous les témoins de Jéhovah. Ça pourrait être, par exemple, un parent de foi athéiste, donc qui est athée, qui pourrait dire, ben moi, je ne veux pas qu'on chante des cantiques traditionnels de Noël, ça nuit à ma conscience, moi, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas qu'un sauveur nous est né. Mais par contre, tout ce qui touche l'Halloween, on ne pourrait pas demander de dérogation. Par exemple, un parent ne pourrait pas demander qu'on ne se déguise pas en monstre, en sorcière, ou un parent ne pourrait pas demander qu'on enlève les squelettes qui décorent l'école, parce que c'est un élément culturel, ce n'est pas un élément religieux. À l'époque où est-ce qu'il y avait des écoles confessionnelles protestantes évangéliques, c'était à l'époque où est-ce qu'on avait un modèle qui était un peu plus communautarien. Eh bien, ces écoles-là étaient subventionnées à 100% et les parents avaient le droit de mettre sur pied ces écoles-là, avaient le droit parce que le gouvernement reconnaissait ce modèle-là. Mais ce qu'on disait, c'est que c'est dangereux parce que ça peut ghettoiser les enfants. Ce n'était pas le cas parce qu'il y avait des tournois, par exemple, de basketball avec les écoles publiques de la région, du secteur et tout ça. Il y avait toutes sortes d'activités avec les gens de la ville, et il n'y avait pas de ghettoisation. Et donc, quoi qu'il en soit, les seuls qui ont pu bénéficier jusqu'à tout récemment de ce modèle communautarien, c'étaient les Amérindiens, parce qu'ils étaient protégés non pas par une loi provinciale, mais par une loi fédérale, la loi sur les Indiens, chapitre 1 à 5, qui a été amendée il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, ils avaient une protection qui allait au-delà, qui transcendait la loi sur l'éducation. Parce que l'éducation, c'est de juridiction provinciale. Le problème, c'est que si le Québec devient indépendant, le Parti québécois reconnaîtrait le droit des Amérindiens de conserver leurs droits confessionnels, mais il ne l'étendrait pas aux Québécois. C'est ce que nous a appris Pauline Marois le 1er juin 2005 en commission parlementaire. Et j'étais présent lorsqu'elle a fait cet énoncé-là. Et donc, c'est important de savoir ces choses-là parce que ce projet de loi-là ne touche pas seulement à la structure, ne touche pas seulement à la gouvernance, mais il touche également à des dimensions philosophiques. Malheureusement, c'est déjà le temps de clore cette émission. Si vous désirez poursuivre la discussion, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante. C'est leblogueur@ericlantier.net, leblogueur@ericlantier.net. Je vous invite donc également à être des nôtres du lundi au vendredi à 8h05 et à 20h05 pour parcourir votre tour d'horizon. N'oubliez pas que cette émission est également disponible sur le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM et je vous dis, mesdames et messieurs, à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le tour d'horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. leblogueur@ericlantier.net. Le tour d'horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre tour d'horizon. Au revoir!